à Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition de 17h30 en universel du vendredi 11 mai 2018. Abdourahmane Dia en direct de Washington, voici les titres. Des hommes armés ont attaqué un convoi de touristes dans le parc de Virunga, tuant un garde. Des touristes ont été enlevés. Toujours en RDC, l'Organisation mondiale de la santé juge élevé le risque de propagation de l'épidémie d'Ebola.
On travaille main dans la main avec le gouvernement et d'autres partenaires pour essayer d'apporter une réponse efficace.
Et au Niger, les avocats de membres de la société civile incarcérés dénoncent l'immobilisme dans le traitement de leurs dossiers. Le ministre iranien des Affaires étrangères entame demain une tournée diplomatique pour tenter de sauver l'accord nucléaire. Et puis ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout de suite, le journal. Bienvenue à tous. À Brazzaville, le parquet a requis une peine d'au moins 15 ans de prison contre le général Jean-Marie Michel Mokoko, jugé pour atteinte à la sûreté de l'État. L'ex-chef d'état-major, ancien conseiller du président congolais et candidat à l'élection présidentielle de 2016, nie ces accusations. Les jurés s'étaient retirés pour délibérer. Nous vous informerons donc de la suite de ce délibéré. Les avocats n'ont pas pris la parole. La défense a qualifié le procès de règlement de compte politique. L'accusé a choisi de se taire, invoquant l'immunité qu'il affirme tenir de son statut de dignitaire de la République. En RDC, une garde au parc de Virunga, près de Goma, a été tuée dans l'attaque d'un convoi de touristes. Trois personnes, deux touristes britanniques et leur chauffeur ont également été enlevés. Les recherches se poursuivent pour tenter de les retrouver. Charlie Kasereka nous fait le point depuis Goma.
Le convoi s'est dirigé vers Rumangabo, un lieu de transit pour plusieurs touristes qui visitent ces parcs. C'est là même que se trouve le bureau administratif du parc de Virunga. 40 minutes seulement après avoir quitté la capitale provinciale, Goma, un groupe d'hommes armés a tiré sur le convoi, touchant mortellement une éco-garde. Les responsables du parc national de Virunga confirment l'incident sans tout de même donner plus de détails. La société civile dans les territoires de Nyiragongo, près de Goma, déplore ces nouveaux cas de banditisme dans cette région et ajoute que les rangers de l'Institut congolais pour la conservation de la nature sont depuis ce matin à la recherche de ces personnes kidnappées. Selon toujours cette société civile qui a alerté en premier sur cette attaque, plusieurs groupes armés opèrent dans la zone d'attaque et qui pourraient aussi être un cas de banditisme. Les éco-gardes du parc de Virunga subissent régulièrement des attaques des groupes armés dans cette zone, mais jusque-là, les touristes n'étaient pas encore touchés. Il y a quelques semaines, 6 rangers ont été tués dans une autre attaque attribuée à un groupe de Mai Mai dans ce même territoire de Rutshuru. Charlie Kasereka, Goma, pour VOA Afrique.
L'hôpital central de la ville de Bikoro, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, a reçu un nouveau cas suspect de fièvre hémorragique Ebola. L'Organisation mondiale de la santé juge élevé le risque de propagation de l'épidémie en RDC. Les précisions de Jacques Aristide.
Bikoro est la ville la plus proche de la localité d'Ikokompengé où sont apparus les premiers cas. Hier, le ministère congolais de la Santé a confirmé un premier décès de la nouvelle épidémie et a déclaré que 11 autres cas sont confirmés, dont 3 membres du personnel médical. La RDC a informé l'OMS de l'existence d'un foyer le 8 mai et a comptabilisé 32 cas suspects depuis le 4 avril. 18 décès ont été enregistrés, même si la fièvre Ebola n'est pour l'heure confirmée que dans l'un des 18 décès. À Genève, l'OMS dit se préparer au scénario du pire en RDC, y compris à l'extension de l'épidémie à Mbandaka, la capitale de la province de l'Équateur. L'agence onusienne espère que Kinshasa donne dans les jours à venir le feu vert à l'utilisation d'un vaccin expérimental, mais souligne que ce vaccin ne serait pas d'une utilisation aisée et n'agirait pas comme une baguette magique.
Et on revient sur cette information concernant le général Jean-Marie Michel Mokoko. Le tribunal l'a condamné à 20 ans de prison. C'est une information qui vient de tomber. En Guinée équatoriale, le principal parti d'opposition citoyen pour l'innovation va introduire un nouveau recours devant la Cour constitutionnelle après la confirmation lundi de sa dissolution par la Cour suprême. Le parti a 90 jours pour introduire ce recours, selon Fabien Nsungema, l'un des avocats. Mais la Cour suprême avait précisé que la sentence était définitive et que plus aucun recours n'était désormais possible. Au Niger, le dossier de la trentaine d'acteurs de la société civile arrêtés en mars dernier pour organisation et participation à une manifestation interdite n'avance pas. Chose inquiétante selon leurs avocats qui ont tenu à dénoncer la situation. Le point avec le correspondant de VOA Afrique à Niamey, Abdourazak Idrissa.
Le premier groupe de ces 26 acteurs de la société civile a été placé sous mandat dépôt dans différentes prisons du pays le 27 mars dernier par un juge désigné pour instruire le dossier. Depuis, aucun acte n'a été posé dans cette instruction selon les avocats de la défense. Jamais le juge n'a demandé à entendre ou partir rencontrer les prévenus comme prévu par la loi. Les avocats ont ainsi introduit une requête afin de dessaisir ce juge du dossier du fait de son inaction, requête adressée au président du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Mais c'est le bureau du procureur, parti comme les avocats au procès, qui a répondu négativement. Entre-temps, l'état de santé de certains détenus a nécessité des examens dans les centres de santé de la capitale, mais leur évacuation traîne, aggravant leur situation. Pour toutes ces raison, le conseil d'avocats des acteurs de la société civile a décidé de porter plainte pour détention arbitraire. Abdelrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
La police sud-africaine a indiqué ce vendredi qu'elle ignorait toujours le mobile de l'attaque au couteau d'hier dans une mosquée de la banlieue de Durban. Un homme a été tué, deux autres grièvement blessés. Toutefois, la police indique avoir identifié des signes d'extrémisme. Les auteurs présumés, armés de couteaux, sont entrés dans une mosquée chiite de Verulam, ont égorgé donc un homme et en ont poignardé deux autres avant de mettre le feu sur le lieu de culte. Au Kenya, les équipes de secours continuent de chercher d'éventuels survivants à la catastrophe causée par la rupture d'un barrage. C'était hier soir, dans le centre du pays, un accident qui a fait 45 morts et une quarantaine de disparus. La justice a demandé une enquête sur la catastrophe qui s'est produite sous l'effet de pluies diluviennes. Amnesty International dénonce la condamnation à mort par un tribunal soudanais d'une adolescente accusée d'avoir tué son mari. L'organisation estime que Noura Hussein Ahmad, 19 ans, est plutôt une victime et la peine prononcée à son encontre est d'une cruauté intolérable. La jeune femme a été condamnée à mort pour avoir tué l'homme que son père avait forcé à épouser à l'âge de 16 ans. Selon Amnesty International, lorsque Noura Hussein a refusé de consommer son mariage, son mari a appelé deux de ses frères et un cousin pour qu'il l'aide à la violer.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, entame demain une tournée diplomatique pour tenter de sauver l'accord nucléaire après le retrait des États-Unis. Il se rendra à Pékin, Moscou et Bruxelles. Le point avec Marie Benson.
Mohammad Javad Zarif entame une tournée pour tenter de sauver l'accord nucléaire iranien. Il commence sa tournée dimanche à Pékin, puis se rendra à Moscou. Le président russe et la chancelière allemande Angela Merkel ont déjà discuté de la situation liée au programme d'action conjoint, c'est-à-dire l'action sur le programme nucléaire iranien. Dès lundi, Vladimir Poutine doit recevoir le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a déjà déclaré que Téhéran respecte les termes de l'accord de 2015. Monsieur Poutine s'était dit profondément inquiet du retrait américain de cet accord annoncé par le président Donald Trump. Mardi à Bruxelles, Javad Zarif doit rencontrer ses homologues français, allemands et britanniques, ainsi que Federica Mogherini, la chef de la diplomatie de l'Union européenne.
Les États-Unis inaugurent lundi leur ambassade à Jérusalem malgré le tollé suscité par cette décision annoncée en décembre par le président Trump. Le président américain va d'ailleurs s'exprimer par message vidéo lors de la cérémonie d'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. La reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et le transfert de l'ambassade installée jusqu'ici à Tel Aviv étaient une promesse de campagne de Donald Trump. Nous y reviendrons dans la deuxième partie de cette édition. Un Palestinien a été tué par des tirs de soldats israéliens lors du 7e vendredi consécutif de manifestations à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. L'homme de 40 ans a été atteint à la poitrine, a précisé le ministère de la Santé dans la bande de Gaza sous le contrôle de Hamas. Ce décès porte à 53 le nombre de Palestiniens tués depuis le début du mouvement de protestation appelé la Grande Marche du Retour le 30 mars dernier. Le Koweït et les Philippines ont signé ce vendredi un accord réglementant le travail des domestiques après une crise diplomatique entre les deux pays. Cette tension avait mené à une interdiction pour les travailleurs philippins d'aller travailler dans le pays du Golfe. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manelakiza.
La nouvelle compagnie aérienne Air Sénégal SA inaugure lundi sa première liaison quotidienne entre Dakar et Ziguinchor dans la région touristique de Casamance. Elle a pour ambition de desservir aussi bien des lignes intérieures et des lignes internationales. Elle est entièrement détenue par l'État du Sénégal avec un capital de 40 milliards de francs CFA. Elle est aussi appelée à ouvrir son actionnariat à des privés qui ont commencé à se manifester. Les évêques du Congo-Brazzaville demandent un audit de la dette du pays de tous les projets réalisés dans le cadre de l'accord de coopération avec la Chine et autres pays concernés. La dette à l'égard de la Chine constitue 40% du total. La pratique des préfinancements pétroliers avec les traders a également contribué à alourdir l'endettement. Les évêques demandent au FMI de tout faire pour que la lutte contre la corruption, la concussion et la promotion de la bonne gouvernance demeurent des critères intangibles pour la signature d'un programme éventuel. Les cours du café Robusta et de l'Arabica ont fortement reculé et effacé leurs gains prononcés de la semaine précédente pour renouer avec leur niveau de fin avril. Le cacao a encore repoussé ses récents sommets à Londres et a atteint mardi 1971 livres sterling à la tonne, à son plus haut depuis un an et demi, mais les prix se sont repliés sur la semaine. Les prix du sucre ont enregistré une légère baisse sur la semaine. Le marché souffrait de récoltes records en Inde et en Thaïlande, deux des quatre plus grands producteurs mondiaux.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahman, bonsoir à tous.
Éliminatoire de la CAN des moins de 20 ans ce week-end.
Le deuxième tour aller des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans 2019 débute ce vendredi avec un choc Algérie-Ghana. Ce tour marque l'entrée en lice des pays les plus performants dans cette catégorie d'âge depuis des années. À suivre demain, Malawi-Angola, Mozambique-Afrique du Sud, Burundi-Soudan, Botswana-Congo, Gabon-Côte d'Ivoire, Rwanda-Zambie, Guinée-Bissau-Nigeria, Ouganda-Cameroun, Burkina Faso-Libye, Sénégal-Égypte et Mauritanie. Guinée et dimanche la Tanzanie face au Mali et la Gambie face au Bénin.
Nouveau titre en vue pour la Juventus.
Oui, la Juve est en route pour un quatrième doublé consécutif. Après la Coupe d'Italie décrochée mercredi, le club turinois n'a besoin que d'un point contre la AS Rome dimanche lors de la 37e et avant-dernière journée pour remporter son 7e Scudetto d'affilée. Avec 6 points d'avance et une différence de but très favorable à 2 journées de la fin, il faudrait un véritable tremblement de terre pour éviter que la vieille dame ne décroche son 34e titre.
Procédure disciplinaire ouverte contre Buffon, le gardien de la Juve.
Et oui, l'UEFA a ouvert à l'encontre du gardien de but de la Juventus Turin, Gianluigi Buffon, exclu lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions. Une procédure disciplinaire. On se souvient que le 11 avril, alors que la Juve menait 3-0 dans le temps additionnel et se dirigeait vers une prolongation, l'arbitre avait sifflé un pénalty contesté par le gardien de la Juve qui avait été exclu pour protestation.
Et on termine par le tournoi de Madrid en tennis.
Le Sud-Africain Kevin Anderson, 8e joueur mondial, a enfin franchi le cap des quarts de finale en Masters à sa 11e tentative. Il a dominé le Serbe Dusan Lojovic, 95e joueur mondial. Le score 7-6, 3-6, 6-3. Le finaliste du dernier US Open avait buté à ce niveau de la compétition à 10 reprises, dont 2 fois cette saison à Indian Wells puis à Miami.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. On passe au dossier du jour. L'OMS juge élevé le risque de propagation de l'épidémie d'Ebola en RDC. L'agence qui a enregistré 32 cas, dont 18 décès depuis le 4 avril dans la région de Bikoro, veut mettre en place son pont aérien. Le point avec Tariq Djazarevitch, porte-parole de l'OMS, joint par Nathalie Barche.
On a maintenant des équipes sur place dans la province Équateur, dans une petite localité à quelques heures de la ville de Bikoro. On travaille main dans la main avec le gouvernement et d'autres partenaires pour essayer d'apporter une réponse efficace. Donc on a une équipe conjointe qui est arrivée le lendemain de la déclaration du gouvernement, une équipe du gouvernement, des autorités sanitaires, MSF et l'OMS, pour voir où est-ce que le virus a pu circuler, quels sont les gens qui sont à risque, et aussi de mettre en place un centre de traitement, un programme de suivi de contact, des interventions sécurisées, et aussi on est en train de voir comment déployer un laboratoire mobile pour pouvoir effectivement confirmer ou écarter les cas suspects.
Vous proposez de mettre en place un pont aérien.
Donc on parle ici non seulement des experts qu'on veut déployer, mais aussi des médicaments, des kits de protection, un laboratoire mobile. On a besoin vraiment d'établir un pont aérien, que ce soit avec hélicoptère ou encore mieux avec des petits avions qui pourraient avoir un peu plus de capacité de cargo.
Vous savez s'il y a des pistes d'atterrissage dans cette région ?
C'est exactement ça le sujet de discussion, pour savoir si la piste d'atterrissage à Bikoro peut donc recevoir des avions ou il faudra faire par les hélicoptères qui effectivement ont moins de capacité.
L'OMS propose un vaccin.
Il faut déjà voir qui est identifié comme cas suspect, qui est identifié comme contact. Parce que si on fait une vaccination par la méthode de l'anneau, donc vacciner les contacts des contacts, donc il faudrait avoir des listes précises des gens à vacciner avant. Vous rappelez que l'année dernière, il y avait une épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, dans une autre localité, c'était à Likati. Le gouvernement a donné son feu vert et les préparations avaient bien commencé pour utiliser le vaccin, mais finalement, il n'a pas été utilisé tout simplement parce qu'il n'avait plus besoin. On a réussi à arrêter la propagation des virus par les méthodes traditionnelles. On ne sait pas comment ça va se passer cette fois-ci, donc on se prépare. Mais l'essentiel, c'est vraiment d'avoir une meilleure compréhension de la situation épidémiologique sur place.
Vous pouvez écouter l'interview intégrale de Tariq Djazarevitch, porte-parole de l'OMS, sur voafrique.com.
Jacques Aristide avec vous. À votre avis, ce vendredi à 18h TU sur VOA Afrique, la Sierra Leone va rendre l'enseignement primaire et secondaire gratuit à partir de septembre prochain. D'autres pays en Afrique subsaharienne doivent-ils en emboîter le pas? Quel financement pour l'école en Afrique? Laissez-nous vos numéros de téléphone et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique ou appelez-nous en direct au 001 202 205 26 33 001 202 205 26 33. À tout à l'heure.
Les évêques du Congo-Brazzaville ont dressé un bilan sévère des maux qui frappent le pays. Sans ménager le pouvoir, ils demandent un dialogue politique le plus large possible et un audit de la dette. Les évêques soulignent aussi le besoin d'une justice équitable et indépendante. Pour un commentaire, Eric Manirakiza a joint à Paris l'ex-ministre congolais des hydrocarbures et membre actif de l'opposition congolaise en Europe, Benoît Kokobene.
Je dois vous rappeler que les évêques du Congo sont souvent impliqués dans les problèmes que connaît notre pays. Ça a été le cas pendant la conférence nationale souveraine en 1991. Et là, aujourd'hui, leur analyse est vraiment correcte. Il y a tous les problèmes qui concernent la bonne gouvernance, il y a tous les problèmes qui concernent la corruption. Ils pointent l'endettement colossal du pays, 120% du PIB. Et les prêtres ont raison, les évêques ont raison d'avoir noté ça. Et les évêques ont raison de parler de la crise dans le pôle, les crises, parce qu'il n'y a pas qu'une crise dans le pôle. Depuis longtemps, depuis 1998, le pôle est, n'est-ce pas, victime de beaucoup de crises, des crises politiques, des crises militaires et tout le reste. Voilà.
Quel est l'impact que cette déclaration va avoir sur le régime Sassou?
Mais le régime Sassou est pied au mur. Le régime Sassou est maintenant composé des sourds qui n'entendent plus rien, et voire même des aveugles qui ne voient plus rien. Les choses se passent devant eux, ils n'entendent pas, ils ne voient pas. Et le pays ne fait que sombrer, n'est-ce pas, dans la crise. L'impact que ça va avoir, je suis sûr, de personnes comme nous autres, comme moi, j'apprécie ce qu'ils ont fait. Et je suis sûr qu'au Congo, beaucoup de gens apprécient cela. Et puis, il faut ajouter que le Congo, c'est un pays quand même à plus de 80% chrétien. Donc, quand les églises parlent, quand les évêques parlent, il y a quand même des gens qui les écoutent. Donc, les gens vont, à partir de ce moment, être encore plus réveillés, parce qu'il y en a qui sont un peu lâchés, parce que tout ce qu'on a essayé ne marche pas. Donc, les gens sont un peu dans le relâchement. Et puis, il faut reconnaître aussi que les gens sont massacrés, on les arrête et on les tue. Alors, voyez-vous, donc les gens sont un peu désabusés.
Les évêques demandent la libération des personnes en prison à la suite des contentieux politiques. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font allusion au général Jean-Marie Michel Mokoko, par exemple?
Les évêques, d'une manière générale, ont toujours demandé la libération de tous les prisonniers politiques. Parce qu'aujourd'hui, le maximum de gens qui peuplent les prisons du Congo-Brazzaville, ce sont des prisonniers politiques. Indépendamment de têtes d'affiches comme Jean-Marie Michel Mokoko, Kombi Salissa, ou Paulin Makaya et les autres. Mais on arrête même leurs enfants, on arrête même leurs partisans, on arrête un peu tout le monde comme ça au hasard. Aujourd'hui, récemment, on arrête les jeunes qui collent les affiches et tout. Ça doit les inquiéter dans leur fondement. Il y a le procès stalinien de Jean-Marie Michel Mokoko. L'évêque de Kinkala, Mgr Portela, avait déjà alerté le pouvoir à plusieurs reprises. Mais le pouvoir restait sourd. Mais aujourd'hui, les choses commencent à changer et ce procès, justement, va être un révélateur de tout ce qui se passe, de tous les complots montés de toutes pièces contre les citoyens.
Voilà, c'était Benoît Kouké-Béné, ancien ministre congolais, joint à Paris. Et je rappelle plutôt que le général Jean-Marie Michel Mokoko vient d'être condamné à 20 ans de réclusion criminelle à Brazzaville. Le camp de réfugiés de Kakuma, le plus grand du continent, est-il un fardeau ou une opportunité économique? Une étude commanditée par la Société financière internationale SFI de la Banque mondiale révèle que c'est plutôt un lieu de grande consommation, donc un terrain fertile à l'investissement privé dans les finances par téléphone mobile ou le secteur de l'énergie. Daniel Scherf a fait le tour de ce camp. Son reportage est rendu ici par Idriss Fall.
Les réfugiés gèrent plus de 2000 petites affaires dans le camp de Kakuma. Ils vendent tout ou presque, depuis la Wi-Fi à la nourriture en boîte. Beaucoup de ces petits vendeurs paient des taxes même s'ils ne reçoivent rien en retour de leur pays d'accueil, alors que les revenus du camp viennent essentiellement de l'aide. L'homme d'affaires Mesfim Getahoun est un réfugié éthiopien.
Je n'ai rien amené ici. J'ai commencé mon affaire dans ce camp avec zéro. J'ai commencé à chercher du travail, travailler pour les gens, et j'en suis arrivé là.
Pour la Société financière internationale, un groupe de la Banque mondiale, Kakuma est débordante d'une économie informelle. La SFI appelle les investisseurs privés à saisir cette opportunité. Michel Bodzang, du bureau de la SFI à Nairobi.
Oui, certes, le secteur privé est là pour faire de l'argent. Le secteur privé, en retour, doit apporter des opportunités d'emploi pour la population d'accueil et pour les réfugiés. De meilleurs services, plus durables, à notre avis, c'est l'expérience de la SFI durant ses 60 ans d'existence et aussi apporter une croissance économique à une région.
Ce camp datant de 26 ans et la ville voisine de Kakuma représente une économie combinée de 56 millions de dollars et l'équivalent du dixième de la population kényane. Benjamin Ekal Ekouam, propriétaire de la librairie Kakuma Peana.
Près de 70% de nos affaires viennent du camp des réfugiés, particulièrement des ONG qui travaillent sur place.
La population du camp a presque doublé ces cinq dernières années. Les réfugiés viennent de 18 pays, mais les dernières arrivées proviennent essentiellement du Soudan du Sud. Soukrou Kazing Zoglou dirige le HCR à Kakuma.
Est-ce que les réfugiés doivent simplement dépendre de l'aide humanitaire? Le rapport de la SFI montre que l'économie va bien au-delà de ce que fournissent les agences humanitaires.
Le réfugié somalien Hassan Mohamed Adan a été plus chanceux. Il avait emprunté de l'argent à des proches pour commencer un business, mais les restrictions l'empêchent de devenir légalement propriétaire ou de louer une maison, circuler librement et établir un partenariat avec un Kenyan.
Alors nous avons besoin de papiers. Nous avons aussi besoin de soutien parce que nous avons besoin d'argent.
Et il y a peu de chances que le Kenya lève les restrictions imposées aux réfugiés. Le HCR essaie de faire des avances en argent liquide à la place des distributions de vivres, ce qui, pour la SFI, devrait attirer davantage d'investisseurs privés.
Les États-Unis inaugurent lundi leur ambassade à Jérusalem. Ce transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem concrétise l'annonce faite le 6 décembre par le président Donald Trump reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël. Pour une analyse, Yacouba Ouedraogo a joint le professeur Eli Carmon, chercheur au centre interdisciplinaire de l'université de Herzliya à Tel Aviv.
C'est une décision politique, mais aussi symbolique, importante pour le peuple israélien. Et je crois aussi pour la communauté internationale, finalement, parce que toutes les instances officielles, la Cour suprême, les gouvernements ont leur siège à Jérusalem. Et c'était un peu étrange que la majorité des pays ne reconnaissent pas, au moins, Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël.
Vous le disiez tantôt, le Parlement israélien et le gouvernement sont déjà à Jérusalem. Le Congrès américain avait déjà voté cette loi sur la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Le président Trump reconnaît, on va dire, de droit ce qui était déjà une reconnaissance de fait.
Oui, bien sûr. Après les accords d'Oslo, il y avait déjà 15 ambassades à Jérusalem. Mais à cause des pressions des pays arabes et de l'autorité palestinienne et aussi à partir de l'intifada, c'est-à-dire la violence palestinienne à partir de 2000, ces ambassades ont été retransférées à Tel Aviv. Avant la déclaration du président Trump, le ministère des Affaires étrangères russe a déclaré que, du point de vue russe, Jérusalem-Ouest est la capitale d'Israël. Mais ils n'ont pas décidé le transfert d'ambassade.
Alors, justement, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que d'autres pays emboîtent le pas aux États-Unis?
Oui, comme je dis, Guatemala et le Paraguay. Et la Roumanie a décidé aussi qu'il y a un problème juridique là-bas qui va décider le président ou le premier ministre. La Tchécoslovaquie, c'est un processus maintenant juridique dans le pays. Et je crois que même le Panama avait intention de faire ce transfert.
L'inauguration coïncide avec le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Le lendemain, les Palestiniens commémorent la Nakba, l'exode de centaines de milliers d'entre eux chassés de ce jeu. Faut-il s'attendre à des débordements?
Oui, il y a surtout ce qui se passe à Gaza, parce que le Hamas tente d'utiliser le problème des réfugiés palestiniens et longtemps déjà, depuis un mois et demi, d'organiser chaque vendredi des manifestations violentes qui incluent aussi des attentats terroristes à la frontière avec Israël. Le 15 mai sera un jour très difficile, mais j'espère que ça va passer sans beaucoup de personnes qui perdent la vie.
Quel pourrait être l'impact de ce transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem sur les relations des États-Unis avec la communauté internationale?
Je ne crois pas qu'il y ait une vraie réaction, sauf peut-être au sein des Palestiniens et peut-être la Turquie a été beaucoup plus agressif dans ce domaine. Mais on voit que les pays arabes, en général, membres de la Ligue arabe, surtout les pays du Golfe, l'Arabie saoudite, les Émirats et l'Égypte, tentent de négocier avec les Américains et avec Israël une solution pour l'ouverture de négociations de paix
nouvelle. Voilà, c'était l'universitaire Eli Carmon, joint à Tel Aviv. Grand Bob Marley, c'était le 11 mai 1983, n'est-ce pas? 37 ans après, on se rappelle, et c'est un choix de Georges Léonard Sagnon qui a réalisé cette édition. Merci également à Dan Crafton qui était à la console. Présentation, Abdourahmane Dia. Restez en compagnie des programmes de VOA Afrique. Au revoir.
VOA Afrique, les infos.